Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée, de leur pensée ou des auteurs qui leur sont chers. À 10h46, Géraldine Mosna-Savoie vous proposera, comme tous les vendredis en période électorale, son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Elle donnera aujourd'hui quelques conseils aux candidats républicains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe canadien Will Kimlicka, professeur de philosophie à la chaire de philosophie politique de l'Université Queen's à Kingston, dans l'Ontario, et qui, de passage à Paris, vient nous parler de son travail, que l'on connaît en France depuis ses premières traductions en 1999. Vous connaissez peut-être La citoyenneté multiculturelle, parue aux éditions de La Découverte, et qui a fait paraître en septembre dernier aux éditions Alma, Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux. Aurora Borealis, the icy sky at night, paddles cut the water in a long and hurried flight from the white man to the fields of green and the homeland we've never seen. They killed us in our TV, and they cut our women down. They might have left some babies crying on the ground, but the fire stills and the wagons come, and the night falls on the setting sun.
Canada is a separate country from the United States, and there are things that we hold dear that the Americans haven't prioritized. And I'm never going to shy away from standing up for what I believe in, whether it's proclaiming loudly to the world that I am a feminist, whether it's understanding that immigration is a source of strength for us, and Muslim Canadians are an essential part of the success of our country today and into the future.
I wish I was a trapper. I would give a thousand pelts to sleep with Pocahontas and find out how she felt in the morning on the fields of green.
Bonjour, Will Kimlicka.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie de Neil Young à Justin Trudeau. Vous n'êtes pas trop dépaysé ce matin.
Merci.
Dans le discours de Justin Trudeau que nous venons d'entendre et qui était diffusé le 13 janvier 2017, celui-ci dit « Voilà, je ne m'interdirai pas de revendiquer ce en quoi je crois, que ce soit de proclamer au monde que je suis féministe, que ce soit de comprendre que l'immigration est une source de force pour nous et que les Canadiens musulmans sont un élément essentiel du succès de notre pays aujourd'hui et dans l'avenir. » Est-ce là une définition de ce que vous nommez le multiculturalisme?
So the multiculturalism idea in Canada is multi-layered.
Au Canada, la notion de multiculturalisme recouvre différents aspects.
One level, it's a quite narrow policy.
À un certain niveau, c'est une politique assez précise qui porte sur l'intégration des immigrés. Cela repose sur l'idée que les immigrés n'ont pas à cacher leur origine ethnique. Ils doivent avoir la possibilité d'exprimer leur origine ethnique à mesure qu'ils participent à la société canadienne. Alors, dans le passé, il était question d'assimilation. Les immigrés devaient perdre leur ancienne identité pour devenir canadiens. Mais à un niveau différent, le multiculturalisme, c'est une idée plus large qui porte sur le rôle de la diversité dans les sociétés modernes. Nous vivons dans des sociétés de diversité profonde, comme l'a dit Taylor. Et s'agissant du Canada, nous avons une diversité d'immigrés, mais nous avons la diversité des peuples autochtones, la diversité qui émane du fait que nous sommes bilingues de par la présence des Français. Et cela constitue des formes différentes de diversité et cela nécessite des structures politiques adaptées et cela indique des liens différents avec l'État canadien. Donc nous bâtissons un pays pays sur ces fondations multiples. Plutôt que d'avoir une conception unique du peuple ou de la nation, au contraire, nous essayons de bâtir cette société sur ces fondations nombreuses.
Et je signale qu'aura lieu le 27 juin prochain au Canada une journée du multiculturalisme présentée comme une célébration de notre diversité, est-il écrit sur le communiqué de presse du patrimoine canadien. L'intervention de Justin Trudeau est un bon point de départ pour parler de votre ouvrage. Will Kimlicka, vous avez écrit « La citoyenneté multiculturelle, une théorie libérale du droit des minorités » qui est paru aux éditions de La Découverte en français en 2001, puisque dans cette intervention, il dit qu'il est à la fois féministe, qu'il essaie de comprendre l'importance de l'immigration et du rôle des Canadiens musulmans, qui sont un élément essentiel du succès de notre pays. Vous avez parlé dans votre réponse de ces différentes minorités. Comment définissez-vous ce qu'est une minorité, puisque le multiculturalisme est le fait de pouvoir accorder ensemble différentes minorités? Et peut-on dire que les immigrés, les musulmans et les femmes, pour reprendre ces trois exemples, sont toutes les trois des minorités, et que le problème se pose de savoir comment on articule trois entités qui sont extrêmement différentes?
So, one feature of the model we're trying to build,
l'une des caractéristiques du modèle que nous essayons de bâtir au Canada, c'est le fait qu'on ne part pas de la définition de la minorité pour ensuite définir les droits des minorités. Au lieu de cela, la première question que nous posons est comment sommes-nous arrivés sur ce territoire désormais appelé Canada? Nous essayons de voir comment les différents groupes participent d'une communauté. Les premières nations, les peuples autochtones du Canada, étaient bien entendu présents avant l'arrivée des Européens. Et à titre d'exemple, les peuples autochtones n'aiment pas qu'on les dénomme minorité. D'ailleurs, personne n'aime être dénommé minorité. Chacun se voit comme ayant un passé historique distinct qui octroie un certain rôle dans ce processus continu de la construction du Canada. Ainsi, les peuples autochtones ont une relation avec l'État canadien par le truchement d'un traité. Donc il y a des accords qui ont été signés entre les peuples autochtones et les Européens. Les Québécois, qui n'aiment pas qu'on les traite de minorité non plus, se voient, eux, comme l'un des deux peuples fondateurs du Canada, avec les Britanniques. Ensemble, ils ont créé la Confédération, qui constitue la base de l'État canadien. Les immigrés, quant à eux, sont souvent considérés comme ayant une identité double, des Chinois canadiens, des Grecs canadiens, vous voyez, etc. Donc, plutôt que de poser la question de savoir ce qu'est la minorité pour ensuite venir aux droits des minorités, la première question que nous nous posons, nous, c'est comment est-ce que ces différents groupes ont pu s'intégrer dans le récit canadien? Quels sont les enjeux dont nous avons hérité historiquement? Quelles sont les injustices dont nous avons hérité? Et comment pouvons-nous, tous autant que nous sommes, contribuer à ce nouveau pays que nous bâtissons?
Dès la préface à l'édition française de votre livre « La citoyenneté multiculturelle », on trouve ce texte de vous. Je souhaite insister sur un point. L'approche défendue dans ce livre est libérale. Cela signifie que cette approche est radicalement tournée vers une défense des principes fondamentaux de la liberté individuelle de choix, et qu'elle prône dès lors une protection vigoureuse des libertés civiles et politiques individuelles. On a parfois, en France, établi une équivalence entre le multiculturalisme et un communautarisme, marqué par une hostilité à l'égard des discours libéraux sur les droits et par la nostalgie d'un temps où les individus subordonnaient leurs identités et désirs au bien commun. Je n'éprouve aucune sympathie pour cette nostalgie communautarienne. Donc une des premières distinctions que vous faites dans cet ouvrage, et elle est fondamentale puisqu'elle vous accompagne tout au long du livre, c'est celle entre le multiculturalisme et le communautarisme. En clair, comment proposer à différentes cultures de vivre ensemble dans un pays sans tomber dans un communautarisme que vous réprouvez? Will Kimlicka.
So this is exactly my project, is to try to...
Mon propos, c'est précisément cela. Il s'agit pour moi de voir comment on peut mêler les différentes diversités dans un cadre progressiste. Vous l'avez compris, mes points de vue philosophiques sont ancrés dans mon expérience de Canadien. Moi, j'ai grandi à une époque historique du Canada, dans les années 60 et 70 et 80, qui était une époque où il y avait une féroce libéralisation. Et c'était assez frappant du point de vue des droits des femmes, des droits des minorités sexuelles, des droits des personnes souffrant de handicap, donc cette espèce de mouvement qui a eu lieu à ce moment-là. Au cours de cette période, si l'on regarde les sondages d'opinion, on voit que le Canada, à cette époque-là, est devenu encore plus progressiste que ne l'étaient les États-Unis. Donc le public soutenait les libertés individuelles pour permettre aux gens de mener leur vie comme bon leur semblait, avec les droits des femmes, des minorités sexuelles et ainsi de suite. Et le Canada est passé d'un État où il était plus conservateur que les États-Unis à un État où il est devenu plus progressiste que les États-Unis. Donc, ce libéralisme est désormais profondément ancré dans la société canadienne. Donc, ces valeurs progressistes et ces libertés, les gens doivent être libres de mener leur vie comme bon leur semble. Certains défenseurs de ce mouvement de libéralisation pensaient que la logique des droits individuels est en conflit avec les droits collectifs et avec le communautarisme nostalgique, et ce de façon inhérente. Et par conséquent, une société véritablement progressiste ne doit pas avoir d'éléments comme les droits collectifs pour les Québécois, les droits pour la langue officielle des Canadiens français, et pas de droits liés aux traités pour les peuples autochtones du Canada. Il ne faut pas non plus d'aménagement multiculturel pour des groupes d'immigrés, et ainsi de suite. Donc, certaines de ces personnes, pourtant progressistes, pensaient que la logique de la liberté individuelle passait par l'affranchissement de ces droits collectifs considérés comme prémodernes, et alors qu'une société vraiment progressiste saurait vraiment se débarrasser de tous ces droits pour les groupes. Moi, mon objectif a toujours été de démontrer comment bon nombre de ces droits collectifs ou droits de groupe sont cohérents avec les droits des individus, les droits que chacun devrait avoir de mener sa vie comme bon lui semble. Donc il n'y a rien dans la logique du bilinguisme, par exemple, qui restreint le droit qu'ont les individus de décider quelle vie sexuelle ils veulent mener ou quelle vie religieuse ils entendent adopter. Et il en va de même avec les droits par rapport au traité des peuples autochtones ou alors les aménagements multiculturels pour les immigrés. Tout cela, d'après moi, ce n'est pas une tentative à polisser le comportement des individus. Il ne s'agit pas d'imposer un style de vie aux individus. Au contraire, il s'agit, dans l'intention de retirer les obstacles qui empêchent les individus faisant partie de minorités de poursuivre le mode de vie qui leur semble le plus approprié ou le plus heureux. Donc il y a une série de droits ou de groupes de droits collectifs qui, à mon avis, améliorent la liberté des membres des communautés, des peuples autochtones, des Québécois ou des groupes d'immigrés.
Mais alors que se passe-t-il? Parce que là, nous sommes au cœur du problème posé par le multiculturalisme. Vous dites l'important est de faire en sorte que chacun puisse vivre librement, selon ses valeurs, selon ses désirs, selon même peut-être ses règles en fonction des différentes cultures. Mais que se passe-t-il quand un mode de vie particulier entre en conflit avec le pays dans lequel il vit, la nation dans laquelle il vit, ou une culture qui est en fait une culture peut-être nationale qui vient s'opposer à une culture particulière? Comment pense-t-on la cohabitation, en clair, entre la défense de principes de liberté individuelle et la citoyenneté qui présuppose l'appartenance à une communauté politique?
So, I think there are different kinds of conflicts.
Il y a différents types de conflits.
Distinguish.
So, essayons de faire la distinction. Dans certains cas,
certain traditions, traditional practices,
certaines pratiques traditionnelles, certaines traditions, certaines coutumes
are inconsistent with
ne sont pas
basic human rights,
compatibles avec le, des
with,
droits humains ou avec
the idea of equal citizenship,
l'idée de citoyenneté
equal dignity,
ou de dignité.
And in those cases, that's those practices are
en l'occurrence, ces traditions, ces pratiques peuvent constituer une menace envers les principes fondamentaux qui déterminent la Constitution. Et un État progressiste, démocratique, a non seulement le droit, mais aussi le devoir de garantir ces droits individuels et cette dignité individuelle. Donc, ça, là, il y a un conflit. On est bien d'accord. Conflit entre une pratique culturelle et les principes constitutionnels. Le conflit est différent lorsqu'une pratique est considérée comme étant incompatible avec le mode de vie de la nation. Et là, les c'est vrai que la terminologie est un petit peu vague, j'en conviens. Mais si on écoute certains des débats en Europe occidentale aujourd'hui, pensons aux débats en Suisse, par exemple. Certains politiques suisses disaient que la présence de minarets constituait une menace envers le style de vie suisse. Donc là, on se fait une image de ce que doit être l'espace public. Dans cet espace public, il ne doit pas y avoir de symboles ouvertement musulmans, le minaret constituant une menace, entre guillemets, envers le mode de vie suisse. Donc là, vous voyez, il ne s'agit pas de mariage forcé ou de mutilation génitale. Non, on change simplement l'aspect de l'espace public en reconnaissant la diversité. Donc, à mon avis, un État progressiste a besoin de pouvoir et de vouloir changer l'aspect de son espace public et de changer certains de ses symboles, certaines de ses pratiques, de manière à refléter la réalité de la population du pays. Ainsi, si en Suisse il y a suffisamment de musulmans pour justifier la présence d'un minaret, Et bien, il faut que cela se fasse. Peut-être que ce ne sera pas facile, peut-être que ce sera un défi qu'il faudra relever, mais en tout cas, il faut mettre un petit peu plus au goût du jour la conception que l'on se fait de la société. Et à mon avis, il en va de même pour les changements nécessaires pour le féminisme, pour le mouvement des droits des homosexuels. Donc, toutes ces luttes de droits civiques portent en partie sur le changement de l'aspect de l'espace public, de la culture, pour que soit visible la nature même de la société. Donc, les femmes veulent être visibles dans l'espace public, même chose pour les homosexuels, même chose pour les personnes en situation de handicap, les immigrés, les ressortissants des peuples autochtones, les gens de minorités linguistiques, etc. Donc, le multiculturalisme, pour moi, c'est une lutte de droits civiques dont une partie de la logique repose sur le questionnement et la reconfiguration de l'espace public pour mieux refléter la réalité de la société.
Est-ce que ça veut dire, du coup, que cette réalité de la société, on ne peut pas vraiment lui donner une seule définition ? C'est-à-dire qu'en réalité, la société ne peut être définie que comme étant un composé de différentes cultures, de différentes manières d'être, de différentes minorités, parce que finalement vous employez ce terme, et qu'il faut renoncer à une définition de ce qu'est la société canadienne, par exemple. Elle est multiculturelle, ça veut dire qu'elle est composée par les gens qui l'habitent, quelle que soit leur particularité culturelle. Et est-ce que ça veut dire aussi, du coup, qu'on met, c'est peut-être ça qui est un peu gênant, sur le même plan quand même ce que vous appelez des minorités. On parle à la fois ici des femmes et des musulmans et des handicapés et des immigrés, ce qui n'a absolument rien à voir.
So I think it's a very important question. What is shared amongst all the
Il faut se poser la question de savoir ce qui est partagé dans la diversité de la société.
It's particularly important for me because
C'est une question que je trouve très importante. En effet, moi je suis sociodémocrate, disons, donc je défends l'État-providence, et l'État-providence dépend, à mon sens, de la solidarité. Vivre côte à côte de manière passive, ça ne suffit pas. Nous devons nous occuper les uns les autres et cela doit être institutionnalisé dans l'État-providence. Donc, il est clair que cela nécessite une solidarité nationale. Contrairement à certains penseurs qui n'aiment pas cette notion de solidarité, moi je crois au contraire la solidarité est nécessaire. Moi je veux savoir comment on bâtit la solidarité nationale dans une société qui reconnaît la diversité. C'est du reste le sujet de mon livre le plus récent, pas encore disponible en France malheureusement, mais cela porte sur les sources de solidarité dans les sociétés diverses. Il y a là un mélange de l'élément institutionnel et de l'élément identitaire que l'on retrouve dans la solidarité. Nonobstant la reconnaissance de la diversité, il y a des institutions publiques communes dans la société canadienne. Il y a un système juridique, il y a un système politique, il y a les médias à l'échelle nationale. Ainsi, les gens au Canada partagent des expériences communes de par l'existence de ces institutions communes. Mais il y a également l'élément identitaire. Et je pense que l'une des clés du succès du multiculturalisme, une des épreuves du multiculturalisme, c'est celle-ci. Est-ce que les gens génèrent des identités duales? Autrement dit, même si l'on reconnaît une personne comme étant vietnamienne au Canada, eh bien, est-ce que cette personne canadienne, vietnamienne, se sent canadienne? Est-ce qu'elle s'identifie au Canada? Est-ce qu'elle a un sentiment d'appartenance au Canada? Est-ce qu'elle ressent de la fierté d'appartenir au Canada? Voilà, à mon avis, l'un des critères fondamentaux. C'est un petit peu comme le pari multiculturel. Les identités ne sont pas un jeu à somme nulle. Si l'on reconnaît le passé vietnamien d'une personne canadienne, est-ce que cette personne est pour autant moins canadienne? Et c'est une espèce d'image hydraulique de l'identité. Si l'on augmente la reconnaissance de la nature vietnamienne, eh bien, ça signifie que la personne est moins canadienne. Le multiculturalisme, lui, repose sur la notion que les identités sont mutuellement complémentaires. On peut être fièrement vietnamien et fièrement canadien en même temps. Dans certaines circonstances ou à certaines époques, cette image optimiste des identités complémentaires ne fonctionne pas. Mais s'agissant du Canada, il y a des exemples qui nous montrent qu'au contraire, ça marche très bien. Et les immigrés et leurs enfants et petits-enfants, dont l'ethnicité est reconnue, ont un fort sentiment d'appartenance au Canada. Et ils ressentent même la notion de solidarité. Ils sont ravis de participer à l'État-providence en payant leurs impôts pour aider d'autres Canadiens. Et ça, c'est un enjeu important pour comprendre ce qu'est la citoyenneté multiculturelle. Il s'agit de reconnaître la diversité dans un premier temps, mais la reconnaissance de la diversité d'une façon qui encourage les gens à s'identifier avec la société au sens large et à leur donner un sentiment d'appartenance à cette société et à participer de la solidarité de la société.
Cette notion même de citoyenneté multiculturelle, pour reprendre votre expression, vous préférez cette expression d'ailleurs à celle de multiculturalisme, vous est tellement chère que vous êtes reparti de cette notion même de citoyenneté dans votre dernier livre. Alors cette fois-ci, non plus pour l'interroger à l'aune du multiculturalisme, mais à propos de la théorie politique des droits des animaux. C'est votre dernier livre traduit en français, Zoopolis, publié chez Alma Éditeur, pour lequel d'ailleurs vous êtes finaliste du prix de philosophie des rencontres philosophiques de Monaco. Hein. On va entendre un extrait, l'extrait du début de ce livre, traduit en français. Vous l'avez écrit avec votre épouse, Sue Donaldson. On va entendre un extrait donc de ce texte et puis on y reviendra ensuite ensemble. C'est une traduction de Pierre Madelin.
Le mouvement de défense des animaux est dans une impasse. Certes, les stratégies mises en place au cours des 180 dernières années, ainsi que les arguments développés pour articuler en un ensemble cohérent les différents problèmes soulevés par la question du bien-être animal et pour mobiliser l'opinion publique en sa faveur, ont rencontré un certain succès, sur certains points tout au moins. Mais il est également apparu de plus en plus clairement que ces stratégies sont limitées, que non seulement elles ne nous permettent pas de répondre aux défis éthiques les plus graves posés par nos relations avec les animaux, mais qu'elles ne nous permettent même pas de les identifier. Notre but est de proposer un nouveau cadre conceptuel accordant à la question animale une place centrale dans la façon dont nous concevons la nature de notre communauté politique, ainsi que les idées de citoyenneté, de justice et de droit de l'homme qui lui sont associées. Nous pensons que ce nouveau cadre ouvre des possibilités nouvelles, tant au niveau conceptuel qu'au niveau politique, et qu'il peut nous aider à surmonter les obstacles qui entravent actuellement tout changement progressif dans notre attitude envers les animaux.
J'ai dit que la traduction était de Pierre Madelin. Je n'ai pas signalé que celle de La citoyenneté multiculturelle, votre livre précédent dont j'ai lu des extraits aux éditions La Découverte, était assurée par Patrick Savidan. Et ici même en studio, c'est donc Xavier Combes qui vous prête sa voix. Alors, ce qui est très surprenant dans son texte, c'est qu'on y retrouve les mêmes termes de communauté politique, de citoyenneté et de justice, de défi éthique, mais cette fois-ci appliqués aux animaux, au mouvement de défense des animaux qui, dites-vous, est dans une impasse. Alors on peut se demander comment est-ce qu'on passe du droit des minorités au droit des animaux. Eh bien selon vous, le trait d'union, c'est la citoyenneté. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître une citoyenneté aux animaux. Vous allez jusque-là, Wilkim Lika?
Well, so we're using the concept of citizenship.
Nous utilisons cette notion de citoyenneté spécifiquement pour les animaux domestiques ou domestiqués. C'est important de faire cette distinction. En effet, ce qu'il y a de particulier chez les animaux domestiques, comme le mot l'indique, c'est que ces animaux ont été domestiqués, autrement dit, amenés dans le domus, dans la maison en latin. Les animaux domestiques ont été élevés génération après génération pour vivre et travailler à nos côtés. Partons du principe que les animaux domestiques, c'est nous qui les avons intégrés dans notre société. Nous les avons élevés, nous les avons fait se reproduire pour vivre et travailler à nos côtés. À mon sens, cela nous impose l'obligation de reconnaître qu'ils font partie de notre société. C'est nous qui les avons amenés dans notre société. Aujourd'hui, nous devons reconnaître qu'ils en font partie. Donc, le premier principe, c'est que les animaux domestiques sont des membres de la société, et en tant que tels, ils ont des droits. Maintenant, la question est de déterminer la catégorie nous permettant de décrire ce qu'est l'appartenance à la société. S'agissant des êtres humains, le concept que nous utilisons est la citoyenneté. La catégorie que l'on utilise pour reconnaître l'appartenance à une société, c'est la reconnaissance de la nature citoyenne de l'individu. Les animaux domestiques font partie de la société. Par conséquent, nous pourrions envisager la nécessité de leur reconnaître la citoyenneté. Ce sont donc des concitoyens par rapport aux êtres humains. Certes, ce n'est pas facile, ça peut être choquant, provoquant, mais en tout état de cause, moi, il m'apparaît que la citoyenneté constitue un moyen efficace de reconnaître l'appartenance. En effet, cela vous donne certaines orientations pour assurer la justice parmi les membres de la société. Et il se peut bien que les animaux domestiques seront membres de la société, mais à des titres différents de d'autres membres. Mais il y a d'ores et déjà de nombreuses façons d'appartenir à la société. Ne partons pas du principe qu'il n'y a qu'une seule façon d'être membre de la société. Donc, d'ores et déjà, nous sommes en train de reconnaître qu'il y a différentes formes d'appartenance à la société. Et nous avons déjà mis en œuvre des pratiques reconnaissant cette diversité. Et reconnaître la citoyenneté des animaux domestiques, c'est une tendance tout à fait naturelle par rapport à ce que nous avons déjà pratiqué.
Oui, vous dites que pour pouvoir penser la notion même de citoyenneté à propos des animaux domestiques, parce qu'on parle bien des animaux domestiques ici, vous abordez aussi les animaux sauvages et autres, il faut avoir une conception anti-intellectualiste de la citoyenneté. Et vous prenez l'exemple, par exemple, des chiens militants, dans votre livre, hein, toujours Zoopolis. Vous dites, les lois obligeant à tenir les chiens en laisse et limitant leur mobilité et leur droit d'accès aux espaces publics sont de plus en plus contestées. Mais nous avons tendance à penser que cette contestation s'inscrit dans le cadre d'une citoyenneté humaine, car ce sont des êtres humains qui se mobilisent au nom de leurs chiens. Dans cette situation, nous avons tendance à considérer que les humains sont les agents, car ce sont eux qui s'expriment et qui se mobilisent, quand les chiens ne seraient que les objets de l'agentivité, mais ils ne sont pas eux-mêmes des agents. Ce faisant, nous ne réalisons pas que les chiens, par leur simple présence, militent et agissent en faveur de ce changement. Leur présence physique et leurs actes ont joué un rôle décisif dans le processus politique, entraînant non seulement leur réintégration à la vie et à l'espace public, mais également une transformation des activités militantes de la ville. Certes, les chiens ne peuvent pas réfléchir au but de ce militantisme, ni au rôle qu'ils y jouent, mais cela ne change rien au fait qu'ils participent au processus. Et ce ne sont pas des participants captifs ou contraints, ce sont des agents, car ils font ce qu'ils veulent, ils explorent, jouent et passent du temps avec leurs amis humains et canins, mais aussi par leur présence, du simple fait qu'ils mènent leur vie, et contribuent ainsi à façonner la communauté qu'ils partagent avec les humains. Cet exemple est extrêmement parlant, Will Kimlicka, parce qu'on entend bien ce que vous proposez comme conception anti-intellectualiste de la citoyenneté, les chiens vivent avec nous, donc en cela, leur manière d'être est un acte militant. On peut... quand on lit cet exemple, avoir peut-être deux objections que je vous soumets. On est obligé d'aller vite, hein, mais la première, c'est que du coup, on a l'impression que vous parlez de la participation des chiens dans la société comme on parlait tout à l'heure de la participation de minorités dans la société, ce qui peut être choquant. Et deuxièmement, reconnaître que les chiens font partie de la société est une chose, leur attribuer des droits et donc peut-être leur reconnaître des devoirs en est une autre, parce que pour le coup, il faut reconnaître une égalité morale, un même sens de l'obligation entre le chien et l'homme, ce qui est loin d'être partagé par tout le monde.
So let me take the second question first.
Je vais répondre à votre seconde objection en premier.
I think it's correct that membership involves
il est juste de dire que l'appartenance implique des droits et des responsabilités. Mais revenons en arrière. L'appartenance, ça implique la coopération. N'importe quelle vie sociale est déterminée par la coopération. Ça dépend de la possibilité d'agir avec les autres, avec civilité, sans agression, sans violence. Nous devons pouvoir interagir de manière paisible et sociable. Ainsi, nous devons exercer une certaine restriction envers nous-mêmes, nous devons suivre des normes sociales. Donc, lorsque l'on dit que les animaux domestiques font partie de la société, cela sous-entend quelque chose de très juste. Les animaux domestiques apprendre à interagir avec d'autres membres de la société de manière paisible, sociable et de manière qui ne nuit à personne. Des études très intéressantes ont été menées pour étudier ce qui se passe dans les parcs où l'on promène les chiens. Il y a des sociologues qui ont décrit cela comme étant une sorte de ballet, une sorte de danse à laquelle on assiste. En effet, c'est un niveau assez sophistiqué d'autolimitation. Les êtres humains savent bien que leurs chiens se retiennent eux aussi. Ils savent que leurs chiens n'ont cesse que de s'enfuir, d'aboyer autre. Mais les chiens ne font pas cela parce qu'ils savent qu'ils font partie d'un univers social régi par des normes. Ainsi, les êtres humains félicitent leurs chiens d'exercer cette auto-limitation de leur comportement spontané. Donc la réalité est la suivante. Les membres d'une société, les êtres humains et les animaux domestiques, font partie de cette danse sociale où ils régissent leur comportement à l'aune de certaines normes. La question est qui fixe les normes? C'est ça la grande question politique. Et à l'heure actuelle, ces règles sont fixées exclusivement par des êtres humains selon un processus politique qui n'est jamais fixé à l'aune des intérêts des animaux. Lorsque l'on décide de ces normes sociales, on n'essaye jamais de déterminer quel sera le retentissement sur les intérêts des animaux. On ne demande pas aux animaux quelles seraient leurs préférences d'une façon ou d'une autre. On ne leur demande pas ce qu'ils pensent de ces normes sociales. Jamais ne demande-t-on aux animaux de choisir entre différentes possibilités d'organiser les espaces publics, les parcs publics où on promène les chiens. Donc nous, dans nos travaux, depuis la publication de Zoopolis, nous essayons de voir de manière concrète ce que pourrait être certaines situations où nous pourrions solliciter les préférences des animaux domestiques quant aux normes qui régissent notre vie sociale en partage. Il y a un lieu où cela se produit. C'est dans des sanctuaires agricoles. Alors, je ne sais pas si ce phénomène existe en France de manière très répandue, mais en Amérique du Nord, c'est un véritable boom. On met en place des sanctuaires pour des animaux de ferme que l'on a sauvé. Et l'objectif, c'est de réimaginer notre relation à l'animal domestique. Pas simplement les chats et les chiens, les moutons, les chèvres, les vaches, les cochons. Et cela est fait de telle sorte que l'on interroge les animaux. On leur demande quelle relation ils veulent avoir avec les êtres humains. Quelle activité de coopération veulent-ils avoir avec nous? Quelle relation sociale veulent-ils les uns avec les autres? Donc, les relations entre espèces, les relations entre animaux et êtres humains, donc ces sanctuaires d'animaux de la ferme sont des lieux d'expérimentation en Amérique du Nord. Il y a de nouvelles formes de travail, de relations sociales, et l'objectif est de toucher du doigt les désirs des animaux. Quelle vie les animaux veulent-ils mener? Quelles relations veulent-ils entretenir avec nous? Donc, vous voyez, c'est un objectif avec un objectif très lointain, voire utopique. Mais pour le reformuler, les animaux domestiques font partie de notre société et cela implique qu'ils puissent mener leur vie selon certaines règles sociales, mais il faut tenir compte de leurs intérêts et il faut qu'ils puissent déterminer ces règles sociales. Et nous devons être créatifs pour trouver les mécanismes, les circonstances par lesquelles on pourrait solliciter leurs préférences d'interaction avec nous et de répondre à ces préférences.
Sachant que ce sera toujours l'homme, enfin, est-ce que l'animal pourra jamais répondre en son nom? C'est une question, mais je vais revenir sur celle que je vous ai posée. Je vous la repose différemment parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'y revenir. Je vous avais posé deux questions en même temps, donc je vous repose la première à partir d'un autre extrait de votre livre Zoopolis. Hein. Je vous disais qu'il pouvait être choquant de voir qu'on mettait sur le même plan une réflexion quant au statut citoyen des animaux et celui d'autres minorités culturelles. Vous preniez l'exemple des personnes handicapées dans le texte que j'ai lu avant, même si j'ai pas lu cette phrase-là en particulier. Un peu plus loin, vous faites le parallèle entre ce que vous appelez les animaux liminaires et les envahisseurs. Et vous dites que les termes utilisés pour décrire les oiseaux nuisibles reflètent ceux qui sont utilisés pour désigner les groupes humains stigmatisés comme les immigrants, les sans-abri ou les homosexuels. Les animaux indésirables sont stigmatisés en étant assimilés aux êtres humains indésirables. Notre projet est en tout point opposé. Nous ne cherchons pas à exclure les animaux liminaires en les comparant à des groupes humains craints ou méprisés. Mais nous souhaitons au contraire adopter certaines des stratégies destinées à étendre la justice aux êtres humains stigmatisés et les utiliser afin de définir des principes de justice également valables pour les animaux liminaires. Donc pour vous, il n'y a aucune différence de nature, il n'y a aucune hiérarchie entre des êtres humains stigmatisés et des animaux stigmatisés.
Well, there's certainly a difference.
En tout cas, il y a une différence.
I would resist the idea that there is or should be a hierarchy.
Mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faudrait une hiérarchie tout de même.
So, I think you know that this these analogies. I know that some people find them.
Bien que certains puissent les trouver choquantes ou provocantes.
But I think it's important to. There's a deeper question here.
Nous posons une question plus profonde.
But the relationship between.
Il s'agit de la relation.
Species hierarchy.
Entre la hiérarchie des espèces.
Amongst humans.
Et la hiérarchie au sein des êtres humains.
One view is, and this may be implicit in your
vue,
question.
Et là, oui, je réponds à votre question.
The best way
il y a un
to
point de vue
that all
selon lequel
humans
la meilleure façon de s'assurer que tous les êtres humains sont traités à égalité, ou la meilleure façon de s'affranchir de hiérarchie au sein des êtres humains, c'est de faire une hiérarchie très forte entre les êtres humains et les animaux. Ça, c'est une idée assez répandue dans la pensée humaniste. La meilleure façon d'assurer l'égalité de traitement entre les êtres humains consiste à insister sur leur supériorité catégorielle par rapport aux animaux. Donc, cela consiste à éviter les analogies entre l'injustice perpétrée envers les hommes et les injustices perpétrées envers les animaux. Mais aujourd'hui, nous avons des faits qui nous montrent que cette façon de voir est contre-productive. Elle ne nous permet pas de bien envisager la justice s'agissant des êtres humains. Il y a pas mal de données empiriques qui nous montrent que ceux qui pensent qu'il y a une grande hiérarchie entre les animaux et les hommes ont plus tendance à croire entre les hiérarchies aux hiérarchies entre hommes. Donc, si l'homme est supérieur à l'animal, on a tendance à penser que l'homme est supérieur à la femme, que les blancs sont supérieurs aux noirs, que les hétérosexuels sont supérieurs aux homosexuels, et ainsi de suite. Alors que si l'on pense que les animaux et les êtres humains ont des intérêts, des capacités ou des capacités similaires, eh bien, ces gens-là pensent qu'il y a moins de hiérarchie entre humains. Ces faits, ces données établies, nous font réfléchir sur le racisme, le sexisme ou l'homophobie. C'est le modèle de préjugés inter-espèces. Une façon de réduire les préjugés ou la ségrégation, c'est de réduire la hiérarchie entre êtres humains et animaux. On comprend pourquoi d'ailleurs. Soit on voit la hiérarchie naturelle, les hommes sont supérieurs aux animaux, les mâles sont supérieurs aux femelles. Ou alors, on peut se dire, en regardant le monde, qu'il y a des individus, il y a de nombreux individus, il n'y a que des individus avec des besoins individuels, il y a des diversités d'intérêts et de capacités, mais nous devons être sensible aux besoins et aux intérêts de chaque individu et ne pas être obsédé par la catégorie ou de vouloir mettre des étiquettes et surtout pas une hiérarchie.
Merci beaucoup, Wilkim Leka, d'être venu répondre à mes questions aujourd'hui.
Merci.
Merci à Xavier Combes d'avoir assuré la traduction également. Je renvoie les auditeurs à votre livre Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux chez Alma Éditeur. Et aujourd'hui, mardi 6 juin, nous enregistrons cette émission. Nous ne savons pas encore si vous avez reçu le prix de philosophie organisé par les Rencontres philosophiques de Monaco. Ce sera jeudi 8 juin, donc la veille de la diffusion de cette émission. Donc j'espère que vous avez gagné. Les auditeurs le sauront finalement avant nous. Merci beaucoup.
I was just thinking about the way it's supposed to be. I'll eat the plants and the fruit from the trees, and I'll live on vegetables, and I'll grow on seeds. But I don't need animals, and they don't need me. Oh no, I don't need animals, 'cause I love them, you see. I don't need animals, I want nothing dead in me. White flour, white sugar makes you rot. Oh, white could be beautiful, but mostly it's not. A little bit of wholemeal, some raisins and cheese. But I don't need animals, and they don't need me. Oh no, I don't need animals, 'cause I love them, you see. I don't need animals, I want nothing dead in me.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les vendredis Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Pour votre petit précis philosophique cette semaine, vous allez donner des conseils aux Républicains, c'est bien ça?
Eh oui Adèle, le premier tour des élections législatives aura lieu ce dimanche 11 juin. C'est donc un conseil pour trois candidats républicains et non pas Frédéric Lefebvre qui a décidé de quitter sa famille politique, mais Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire et Georges Fenech, trois candidats, eux aussi, embarrassés par cette famille politique, la droite. Mais en politique, jusqu'où doit-on avoir le sens de la famille?
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire? Je vais pas me présenter du tout.
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on ne cesse d'entendre que tout se décompose et tout se recompose. La gauche, la droite, le centre, les extrêmes. Et c'est vrai que la plupart des partis ressemblent aujourd'hui à ces familles dont les parents se déchirent et les enfants restent ou quittent le nid.
Je ne fais pas de la politique pour mon parti. Je fais de la politique pour la France, pour mon pays. C'est le cœur de mon engagement. Et s'il n'y a pas de majorité claire, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que les Français nous ont dit « travailler ». Ensemble. Débrouillez-vous. Dans ce cas-là, je ne me déroberai pas à mes responsabilités. C'est-à-dire...
Avec les Républicains, on tient sûrement l'illustration parfaite d'une famille ni tout à fait explosée, mais pas encore recomposée. François Fillon pourrait en être le père, ou a pu l'être, en tout cas jusqu'à sa défaite, et Bruno Le Maire aurait alors tout du fils cadet, qui a voulu s'en émanciper. Pour preuve, cette déclaration que l'on vient d'entendre au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle et aujourd'hui, son désormais statut de ministre de l'économie d'Emmanuel Macron. Mais s'émanciper de sa famille, est-ce vraiment la quitter? Et inversement, quitter sa famille, est-ce forcément la mettre en péril? Dans le contrat social, Rousseau fait de la famille, je cite, « la plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle ». Mais c'est aussi, nous dit-il, le premier modèle des sociétés politiques qui reste lié au-delà des besoins et du sang par la volonté. Mais si dans la vie, la famille peut donc persister en politique et sans les liens du sang, par quoi peuvent être encore liés des membres divisés? Autrement dit, comment penser la famille politique sans des liens qui l'unifient?
J'attends de voir avec beaucoup d'intérêt ce que vont décider les électeurs de Bruno Le Maire dans sa circonscription, parce qu'il a quitté ses électeurs pour rejoindre une autre famille politique.
Fabienne Keller.
Donc pour moi, les clivages, ça veut dire quelque chose. J'aime le débat d'idées, j'aime la démocratie, je respecte mon adversaire, mais je ne veux pas de l'uniformité. Je ne veux pas de cette marche forcée avec M. Macron.
Dans la famille Les Républicains, on demande cette fois-ci le fils aîné, Georges Fenech, qui pour sa part ne pardonne pas à Bruno Le Maire d'avoir quitté leur famille. C'est que la famille a pour lui un sens. Celui, comme on l'a entendu, de nous souder face aux autres et celui de nous assurer une identité politique, idéologique par rapport aux autres aussi. C'est un des sens que développe Rousseau, là encore, et toujours dans le contrat social. Une fois les enfants et les parents exempts des devoirs d'obéissance et de soins, tous, nous dit-il, rentrent également dans l'indépendance. Et s'ils continuent, je cite, de rester unis, ce n'est plus naturellement, mais c'est volontairement. Et la famille elle-même ne se maintient que par convention. Et d'ajouter cette phrase cruciale, cette liberté commune est une conséquence de la nature de l'homme. Mais voilà, comment faire quand la famille se retourne contre elle-même, comme on l'entend à travers les déchirements des uns et des autres? Comment faire quand la famille nous enchaîne, plus qu'elle ne nous soutient, quand la famille nous aliène, plus qu'elle ne nous donne une identité, faut-il encore vouloir y rester? Et si la famille en politique n'avait de tel que le nom, l'usage ou l'habitude, la question de la famille en politique va donc beaucoup plus loin, car il ne s'agit pas tant de savoir comment la préserver, malgré des liens fragilisés et des membres divisés, mais à quoi bon la préserver?
Si vous me demandez si je suis surprise que la vieille droite qui aime à rester enfermée à Paris, dans ses territoires protégés, aille chercher à me déstabiliser sur ma circonscription, je vous dirais même non. Ça fait des années qu'ils veulent accrocher mon scalp à leur tableau de chasse. Ça fait des années qu'ils souffrent finalement d'être dirigés par une femme moderne et peut-être même par une femme tout court.
À quoi bon préserver la famille en politique? La question se pose vraiment à entendre Nathalie Kosciusko-Morizet en rébellion et à juste titre contre la vieille droite paternaliste de son parti. Alors certes, comme le dit Rousseau, la famille est le premier modèle des sociétés politiques et certes un père à tout du chef de l'État, mais une famille politique comme celle des Républicains doit-elle nécessairement fonctionner comme une famille et comme un État? C'est le problème d'ailleurs de cette sorte de famille qui est un parti. Entre la famille de sang et l'État de droit, entre les affinités affectives et électives et l'intérêt général, entre l'utile aliénation et la liberté commune. Et si donc au final, l'enjeu n'était plus alors de savoir comment maintenir à tout prix sa famille politique sans des liens qui l'unifient, mais à l'inverse, comment maintenir des liens libres et communs sans forcément appartenir à une famille.
Et votre conseil, Géraldine, comme d'habitude, c'est de lire un peu de philosophie, non?
Ah bah bien sûr, et là il s'agit de lire le court texte de Simone Veil, note sur la suppression générale des partis, qui est paru il y a peu à la fois aux éditions Climat et Alia, de quoi aider les candidats à s'émanciper de leur famille politique, ou à l'inverse, à bien affûter leurs arguments pour la préserver.
Simone Veil avec un W, hein, la philosophe, et pas
évidemment.
Simone Veil avec un V.
Bien sûr.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, mais aussi à télécharger et podcaster, tout comme cette émission du jour avec le philosophe canadien Will Kim Lika et toutes les émissions de cette semaine sur la politique est-elle un métier. Tout est à réécouter et télécharger à volonté afin de les écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, on vous donne rendez-vous également sur nos pages Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. Et on vous donne surtout rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine qui vous ira droit au cœur. Nous parlerons du cœur, de ses raisons, de ses déraisons, avec Alfred de Musset lundi, on ne badine pas avec le cœur. Mardi, le Cid de Corneille. Mercredi, François Villon, le débat du cœur et du corps. Et enfin, Flaubert, un cœur simple. Ça, ce sera jeudi. Alors, si le cœur vous en dit, à lundi. À 11h sur France Culture, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde, mais tout de suite, votre feuilleton quotidien, le voici, le voilà, la vie moderne.